France Culture.
Le secteur de la culture est sommé lui aussi à son tour de participer à l'effort budgétaire. Deux exemples. Le premier, le gouvernement a annoncé le gel de la part collective du Pass Culture, un dispositif qui permettait aux établissements scolaires de financer des sorties et des interventions culturelles à destination des élèves à partir de la 6e. Deuxième exemple, il y a quelques semaines, Christelle Morançais, la présidente de la région Pays de la Loire, vice-présidente du parti Horizon, a annoncé des coupes sévères, moins 62% dans les subventions culturelles de sa région. Alors un débat ce soir, à quel point le secteur culturel doit-il prendre sa part dans l'effort budgétaire et comment repenser la politique culturelle dans un tel contexte? Pour en discuter, deux invités ce soir. Florence Portelli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes première vice-présidente chargée de la culture, du patrimoine et de la création à la région Île-de-France. Vous êtes vice-présidente des Républicains et vous êtes présidente également de l'Orchestre National d'Île-de-France. Avec nous et à distance, Charline Claveau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente en charge de la culture, des langues et cultures régionales, du patrimoine et de la francophonie à la région Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes par ailleurs secrétaire nationale en charge de la culture au Parti Socialiste. Merci à vous deux d'être présente ce soir dans Question du Soir.
Oui, je l'assume totalement. C'est pas un effet de zèle ou d'être première de la classe. C'est une responsabilité collective. Quand vous êtes dans un pays avec 3300 milliards de dettes, je dis pas que ce sont les collectivités qui ont contribué à cette dette. Puisque nous, on doit faire des budgets à l'équilibre. Je n'arrête pas la culture. C'est toutes les subventions qui ont été regardées ligne à ligne. Mon choix, ça a été, est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie de nos compétences? Est-ce que ça fait partie des priorités? Et est-ce que c'est un enjeu pour l'avenir demain? Et je pense que le drame aussi de ce pays, c'est une subvention, c'est pas acquis à vie. J'ai même dit qu'on était shooté à la dépense publique. Aujourd'hui, je pense que l'ensemble des acteurs ont pris pour habitude que la subvention, bien c'était acquis à vie. Et la subvention, c'est pas non plus pour payer des loyers ou des emplois. C'est à un moment donné, quel effet de levier ça peut faire pour un territoire.
Christelle Morançais, la présidente de la région Pays de la Loire, elle s'exprimait le 25 décembre dernier dans l'émission C'est dans l'air sur France 5. Charline Claveau, comment est-ce que vous analysez, comment est-ce que vous réagissez même aux propos qui ont été tenus par Christelle Morançais?
Alors, je crois que ces propos ont eu une très forte résonance, c'était une vraie détonation pour le milieu culturel français, parce que pour moi, c'est un propos qui ne dit pas seulement « bon, nous avons un problème budgétaire et nous allons devoir faire des économies comme on a pu l'entendre pour d'autres collectivités », je pense notamment aux départements qui sont dans des vraies difficultés. Ça a été une vraie prise de position politique à double détente, si je puis dire, d'un côté par rapport à une situation budgétaire nationale, un dérapage budgétaire de l'État de près de 50 milliards, où elle annonce qu'il faut se montrer responsable, sans parler, et ça c'est mon avis, de ce qu'est la responsabilité gouvernementale sur ce dérapage budgétaire, et un autre discours vis-à-vis de la culture, mais on réduit souvent son propos au monde culturel. En réalité, c'est aussi des coupes sur la vie associative et sur le sport, donc finalement ce sont des conséquences pour l'ensemble des dispositifs de lien, de partage, qui organise aussi la vie sociale d'un territoire. Et donc ça, pour moi, c'est une vraie prise de posture, de prise de position idéologique et politique sur ce que doivent être l'action de l'État, des collectivités territoriales, et en l'occurrence, une remise en cause du travail aussi des acteurs, avec des propos qui sont quand même très infantilisants pour les acteurs culturels qui seraient shootés à la subvention. Donc ce sont évidemment des propos que j'ai trouvés personnellement tout à fait choquant.
Je rappelle par ailleurs que 2400 emplois sont concernés par ces coupes budgétaires en région Pays de la Loire, mais ce tour de vis sans précédent et ce choix courageux était nécessaire, hein, selon Christelle Morançais. Florence Portelli, comment est-ce que vous-même vous analysez ces propos et au-delà ces choix en matière de politique publique culturelle?
Oui, parce que c'est pas ça, hein. Je prends le département de l'Hérault pour choisir un autre bord. Ils ont eu carrément supprimé la culture, 100%. Donc voilà, c'est. Il y a du pour et du contre. Dans le pour, dans ce qu'elle dit, oui, c'est vrai que la situation en ce moment budgétaire des collectivités est catastrophique. Oui, c'est vrai aussi qu'on a été shooté à la dépense publique comme si c'était quelque chose de naturel. Oui, c'est vrai qu'il m'arrive aussi parfois de recevoir des personnes qui arrivent avec un très beau projet en me disant, bah, du coup, on a décidé de faire ce projet parce que vous allez nous donner de l'argent. Alors que bon, moi, si je monte un projet, je vais commencer par me dire est-ce que j'arrive à faire le projet et éventuellement trouver de l'argent. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une mentalité dans ce pays par rapport à l'argent public qui est particulière. En revanche, là où j'aurais une différence d'appréciation avec notre consoeur, c'est que, et je connais pas la situation de sa région, donc moi je me garderais bien de donner des leçons, mais en tout cas pour moi, la culture c'est quelque chose de fondamental. Oui, c'est pas une compétence obligatoire, mais dans ce cas-là, je vais vous dire, ça va aller vite, hein. Si on regarde les compétences obligatoires en matière culturelle, c'est une compétence qui est partagée. Donc dans ce cas-là, moi dans ma...
D'un mot, j'explicite le débat, la substance du débat pour les auditeurs, une compétence partagée, ça veut dire que la culture en France est évidemment largement gérée, organisée par l'État, mais également et par les collectivités territoriales et en premier lieu par les communes et les intercommunalités. Évidemment, les régions ont un rôle essentiel dans ce domaine également.
Voilà, et donc heureusement qu'on ne s'arrête pas à cela parce que la culture, bon après ça dépend des opinions de chacun, chacune et chacun, c'est quelque chose de fondamental dans une société. Si on veut qu'une société est une âme, une société est une raison d'être, il faut une politique culturelle. Alors après, si vous êtes dans le cas d'une collectivité qui dit je baisse tout parce que j'ai plus d'argent et je demande un effort à tout le monde. Ça me choque moins que de dire je ne vais demander des efforts qu'à un domaine ou quelques-uns parce qu'ils seraient considérés justement comme moins importants. Et moi, je ne considère pas que la culture serait moins importante, par exemple, que la formation, que même les transports ou des sujets comme cela. Donc c'est une question d'appréciation, ce n'est pas la mienne.
Pour revenir sur l'expression que vous avez employée, Florence Portelli, qui a également été employée par Christelle Morancet, on l'a entendu. Qu'est-ce que ça veut dire être shooté à la dépense publique dans le secteur culturel exactement?
Non, c'est pas dans le secteur culturel, c'est en France. C'est considéré que, oui, alors quand on écoute les informations, moi je vois mes concitoyens, hein, c'est oui, il y a de la dette, on s'en rend bien compte. Oui, le pays est quand même au bord de la ruine. Oui, on dépense trop, mais on vous dira surtout pas où faire des économies. Donc c'est vrai que c'est compliqué. On n'a pas habitué les gens au fait de gérer ce type de crise, puisque finalement, à chaque fois, on trouvait une solution magique qui n'était pas tant que ça. Donc je ne dirais pas que c'est lié au secteur culturel. Pour moi, c'est un mal français.
Charline Claveau, vous souhaitiez réagir. Et une précision également en région Nouvelle-Aquitaine. Il y a aussi des coupes budgétaires en matière culturelle. Comment est-ce que vous les organisez d'abord et quel choix ensuite faites-vous dans ce domaine?
Alors peut-être d'abord revenir sur cette notion de compétence obligatoire ou facultative, parce que j'entends beaucoup cela en ce moment dans les médias, que la culture serait une compétence facultative. Moi, quand je relis la loi NOTRe, la loi MAPTAM ou la loi LCAP, qui sont les trois grands textes sur le sujet, en réalité, il n'est jamais question de compétence facultative, mais bien d'une distinction entre compétence exclusive ou compétence partagée. Donc il y a un glissement sémantique qui tente à devenir un glissement d'interprétation aussi de ce que seraient les responsabilités des uns et des autres. Et puisqu'on parle de financement de la culture, aujourd'hui le bloc territorial composé des communes, intercommunalités, départements et régions pèse plus que l'intervention de l'État en la matière. Donc ce n'est pas un petit sujet. Pour ce qui est de la région Nouvelle-Aquitaine, cette année, on a fait un exercice qui était tout à fait inédit et qui l'était parce que nous n'avions pas de budget de l'État adopté. Avec, je ne vais pas revenir évidemment sur toute l'actualité que l'on suit jour après jour. Et donc, on a fait un choix qui relevait de la stratégie de gestion de risque. D'abord, en décidant d'adopter malgré tout un budget en fin d'année dernière, donc en décembre. Et pour nous, c'était important de le faire, y compris pour les opérateurs culturels qui avaient besoin de visibilité alors qu'on avait beaucoup d'incertitudes du côté des autres partenaires publics qui financent ces projets. Et ensuite, sur le scénario de baisse, donc nous, on a fait le choix de baisser en fonctionnement de 3,5% de manière provisoire en attendant l'adoption du budget de l'État et comprendre donc avec cette adoption ce que serait la facture réellement demandée à notre région et donc avec la possibilité d'adopter dans la foulée du budget de l'État un budget rectificatif pour desserrer. Et quand je dis qu'on a fait une stratégie de gestion de risque, c'est qu'en réalité, on a croisé plusieurs critères pour savoir sur qui nous allions faire peser ces choix de baisse, et y compris avec une incertitude de ce que serait l'atterrissage. On a regardé les enjeux culturels d'un territoire, on a une analyse assez fine de nos territoires, on a regardé aussi les situations financières et budgétaires des opérateurs, et on a regardé leur capacité à absorber non seulement une baisse, mais aussi une zone d'incertitude sur ce que sera la réalité de l'aide régionale. Et au final, ça nous a permis quand même de pouvoir apporter des réponses sur 96,5% de notre budget en fonctionnement la majorité, la grande et vaste majorité de nos opérateurs.
Florence Portelli, même exercice, quel choix vous avez opéré en matière budgétaire dans le domaine culturel ?
Nous, j'allais dire, on a eu une petite facilité. Alors, petite, c'est que par exemple, les Olympiades culturelles, de facto, il n'y a plus de Jeux Olympiques, donc c'était sorti du budget. Il y a aussi une partie de mon budget, du budget culture, qui n'est pas dans mon annexe budgétaire, sans rentrer dans des détails qui seraient fastidieux pour vos auditeurs. Mais en réalité, on a une partie qui est par exemple dans le fonds tourisme, ou une autre partie, on finance des enfants ou des jeunes qui vont rentrer au conservatoire ou avoir une activité culturelle, c'est la base. Et voilà, donc en fait, il y a des secteurs qui sont hors budget culture. Donc en fait, c'est un package assez différent. On a aussi freiné, là où on avait, dans le cadre du CPER, contrat plan État-région en matière culturelle, qu'on avait exigé d'ailleurs, on n'en avait pas à la région Île-de-France de CPER culture. On a regardé ce qui était freiné par la crise actuelle, c'est-à-dire aujourd'hui, vous avez beaucoup de travaux d'investissement qui ne se font pas parce que les opérateurs n'ont plus d'entreprise pour faire les travaux, sont en grande difficulté, etc. Donc ça s'est plutôt fait de manière pragmatique là-dessus, mais on a décidé, notamment pour l'emploi culturel, de vraiment ne pas toucher au festival, faire très attention sur ce qui concerne le groupe spectacle vivant, les PAC, de ne pas toucher aussi à nos organismes associés. L'Orchestre national d'Île-de-France et les Chœurs Vittoria. Sur le cinéma, on était déjà très au-dessus par rapport à la situation dans laquelle on avait trouvé le cinéma en arrivant. On est passé de 16 à 15 millions, mais on reste au-dessus de ce qu'on donnait. Donc voilà, on a fait très très attention quand même.
Charline Claveau, est-ce que vous avez le sentiment que ces choix budgétaires, encore une fois, que vous opérez, sont contraints ou non ? Autrement dit, est-ce qu'ils sont le fruit, par ailleurs, d'un désengagement au long cours de l'État en matière culturelle et budgétaire ?
Bon, pour nous, on est vraiment dans une situation que l'on subit. Il faut dire que la contrainte budgétaire sur les régions, et particulièrement la Nouvelle-Aquitaine que je connais bien, elle existe depuis quelques années maintenant. Et pour moi, c'est un processus de recentralisation général assez fort que l'on voit depuis quelques années maintenant. Quand on compare l'état de la décentralisation en France, on voit bien qu'on est à mi-chemin. Quand on compare avec des démocraties européennes voisines, ne serait-ce que l'Allemagne par exemple, le Land de Hesse va avoir 10 fois plus de budget régional que le nôtre. Je verse la situation des politiques culturelles dans la situation plus globale d'une décentralisation qui n'est pas aboutie. Et la difficulté que l'on a en tant que région, c'est que nous n'avons pratiquement pas de fiscalité propre. C'est-à-dire qu'on dépend réellement des choix de l'État par rapport à nos recettes et donc sur notre budget. Pour moi, le problème, il est bien plus large que celui de la politique culturelle. Il est celui de la décentralisation en général dans ce pays.
C'est la question de l'autonomie budgétaire et fiscale des régions. Une réaction, Florence Portelli.
C'est tout à fait vrai. Alors, des régions, mais j'allais dire aussi des départements et des villes.
Des collectivités dans leur ensemble.
De manière globale. En fait, la fiscalité locale, ça n'existe pas. À chaque fois, c'est des résidus de ce qu'avait l'État. D'ailleurs, dans les villes, c'était à patente. En plus, on nous a supprimé la taxe d'habitation. Donc, vous n'avez plus qu'une partie de nos concitoyens qui payent l'impôt. Mais oui, c'est un vrai sujet. Donc, du coup, il n'y a pas d'autonomie réelle. Et en plus, quand vous avez des décisions qui impactent le budget des collectivités territoriales, il y a normalement un article dans la Constitution, qui est l'article 72, même tiré 2, qui normalement fait que vous ne pouvez pas ne pas respecter le principe d'autonomie financière des collectivités locales. Et en réalité, c'est un article très difficile à faire respecter. Et les jurisprudences du Conseil constitutionnel est extrêmement, extrêmement large pour permettre à l'État de ponctionner régulièrement sur le dos des collectivités. Donc ça, c'est un vrai sujet qu'on doit avoir collectivement, parce que ça touche la culture, mais ça touche tout le monde. Après, je vous dirais, en France, par rapport à d'autres pays, si on est vraiment objectif, on est plutôt bien doté. Le ministère de la Culture a plus de moyens que dans beaucoup d'autres pays. En revanche, moi, ce que je reproche à notre pays aujourd'hui, c'est qu'on a un président de la République qui, de mon point de vue, n'a pas de vision en matière culturelle. Faire des chèques, faire un passe culture, même si la façon dont là, il est gelé prêterait beaucoup à débat, c'est pas une politique culturelle. Et pour moi, c'est ça qui manque plus que tout. Parce qu'avant de mettre de l'argent, si vous mettez de l'argent, mais pourquoi ? Et là, moi, je suis désolée sur même les élections présidentielles dernières, t'es pas nombreux à parler de culture. Et le président de la République n'en a absolument pas parlé. Et sur la première élection, il a juste sorti au dernier moment le pass culture, qui était un emprunt de ce qui s'était fait en Italie. Ben, c'est pas sérieux. Donc avant de parler d'argent, il faut déjà savoir pourquoi on fait ça.
Vous êtes d'accord avec cette affirmation, ou ce point de vue plutôt, Charline Claveau? Il y a des outils à disposition aujourd'hui en France, il y a un budget relatif également qui existe, mais il manque surtout une vision en matière de politique culturelle.
De toute façon, on est un pays avec une exception culturelle, on le sait, et évidemment, quand on discute avec des artistes ou avec des professionnels d'autres pays, ils nous envient beaucoup, évidemment, ce modèle avec, par exemple, le statut d'intermittence et le prix unique du livre. Donc, on a inventé quand même des dispositifs tout à fait exceptionnels par rapport à d'autres pays. Pour tirer le fil de Pass Culture, pour moi, c'est un dispositif qui a été tout à fait emblématique du problème de la non-décentralisation, en tout cas du non-aboutissement de la décentralisation culturelle en France. On a un pass collectif, un pass culture par collective qui ne prend pas en charge les transports. C'est-à-dire que les lycéens ne peuvent pas tous prendre le métro ou un tramway pour se rendre dans une salle de spectacle. Et donc, on voit bien que c'est une mesure qui a été quand même pensée de Paris, en oubliant complètement la réalité, notamment rurale, de la plupart des territoires français. Et quand la ministre Rachida Dati qui annonce le printemps de la ruralité, nous lui demandons de pouvoir ajuster le dispositif de manière à ce qu'il soit plus équitable d'un point de vue territorial, et nous n'avons pas de réponse. Donc pour moi, ça illustre très concrètement en quoi la politique culturelle devrait être plus décentralisée, parce que les dispositifs, ils s'inventent aussi sur les territoires en fonction des réalités sociales, les réalités territoriales des territoires. Et il y a beaucoup de dispositifs qui ont été inventés en région par des territoires et qui aujourd'hui peuvent être repris sur le plan national, mais faute de décentralisation, ils ont du mal à émerger.
Florence Portelli, si je vous suis, hein, vous qui critiquiez il y a quelques instants le pass culture, sa part collective alors qu'elle est gelée, vous soutenez justement ce gel de la part collective du pass culture ?
Je ne soutiens pas en tous les cas la brutalité de la décision, parce que vous avez des établissements qui avaient prévu des sorties culturelles qui se retrouvent complètement démunis. Je trouve ça complètement aberrant de faire ça comme ça.
Vous sembliez critiquer le dispositif.
Non, c'est qu'à la base, le pass culture, la première mouture en tous les cas, nous on appelait ça le pass manga, hein, ça a été vraiment conçu comme en effet un chèque. 100 000 médiation culturelle, sans un travail aussi. Pour moi, la culture, c'est de l'éducation. Je le fais dans ma commune. Hein. Ça commence à la naissance. Et je trouve qu'il n'y a pas une politique éducative sur une vie. Et c'est ça, moi, que j'aimerais. Et je vous le dis, moi, je le pratique dans ma ville, avec du 100% éducation artistique et culturelle, mais je commence du fœtus à la fin de vie.
On pourrait dire que dans ce domaine, en matière justement d'éducation artistique et culturelle, le gouvernement a créé une école à Guingamp et a articuler justement des politiques publiques entre l'éducation nationale et la culture. Il n'y a pas que le pass culture.
Non, il n'y a pas que le pass culture. Mais je suis désolée, il n'y a pas grand chose. Et là où je suis d'accord avec ma consoeur, c'est que sur les transports, nous, c'est quelque chose qu'on a fait d'ailleurs avec Valérie Pécresse. On a mis à disposition des bus pour aller au Louvre, pour aller dans des musées, pour aller vers des équipements culturels. Parce qu'en plus, la France est quand même extraordinaire. Il y a le plan Vigipirate qui aujourd'hui peut quand même être contourné. Enfin, ça n'empêche pas les classes d'aller par le train à Paris, eh bien, les trois quarts des enseignants refusent de prendre les transports en commun. Donc vous vous retrouvez avec une vraie ségrégation territoriale. C'est très facile d'aller dire, moi je vois dans mon département même des maires du Vexin qui n'ont pas beaucoup de transports en commun, mais même dans des villes comme la mienne où là il y a le train, si je n'avais pas les bus municipaux et si je n'avais pas aussi cette aide de la région pour aller en transport, ils n'iraient pas en dehors de la ville. Bon, heureusement dans la ville il y a des tas de choses, mais bon, vous voyez par exemple, je suis une semaine de l'art contemporain dans ma ville, mais après le but c'est de les emmener aussi au palais de Tokyo, c'est de les emmener à Pompidou, etc., au FRAC et tout. Donc les transports, c'est une... Ce que dit ma collègue est absolument vrai. C'est un vrai sujet. Mais en dehors de ça, je suis désolée, ce que vous venez de citer, vous appelez ça une politique culturelle. On a connu quand même des périodes plus fastes.
Un mot quand même sur les transports, hein. J'allais dire, ça tombe bien, c'est quand même de la compétence des régions. Je voulais vous interroger, Charline Claveau, sur ce qu'affirmait Christelle Morancet, hein, la présidente de la région Pays de la Loire, sur le réseau social X, c'était le 12 novembre. Elle écrivait, la culture serait donc un monopole intouchable, point d'interrogation. Qu'est-ce que vous répondez à ce type justement de critique qui laisse entendre que la culture serait une exception, si je puis dire, ou une exception qu'on ne pourrait pas toucher en matière de réduction budgétaire?
Je pense que, paradoxalement, la culture est souvent malmenée, et à la fois c'est aussi un totem où on voit que autour du sujet de la culture se positionnent quand même beaucoup des postures politiques et idéologiques. Je crois que je pense qu'il y a une mauvaise compréhension, et je l'ai entendu tout à l'heure dans ce que peut être une vision très libérale de la culture. D'abord, j'aimerais revenir là-dessus parce que j'étais assez étonnée. D'abord, ce que dit Christelle Morançais, c'est-à-dire qu'il y a les acteurs culturels ne comptent que sur de l'argent public. Aujourd'hui, c'est faux. Il y a énormément de projets culturels qui ont des ressources propres, ne serait-ce qu'avec de la billetterie, qui font de la recherche de mécénat ou autre. Mais c'est aussi une mauvaise compréhension de ce qu'est l'économie culturelle. L'économie culturelle, c'est avant tout une économie de prototype. Ça veut dire que c'est pas comme n'importe quel produit que vous pouvez mettre au point et produire en série ensuite. À chaque fois, il y a une prise de risque quand vous allez créer une œuvre de cinéma, quand vous allez proposer une pièce de théâtre ou autre. Et pour moi, le rôle aujourd'hui des services publics, de la collectivité, il est là. Il est de soutenir dans la prise de risque des artistes, des professionnels de la culture, pour qu'une diversité d'œuvres et de contenus puisse être disponible pour les citoyens. Donc je suis un peu... on n'a pas tellement la même vision de ce point de vue-là, de ce que devrait être la place, en tout cas de le positionnement de l'aide publique vis-à-vis de la culture.
Je reviens donc, Florence Portelli, sur cette expression que j'avais déjà relevée tout à l'heure, être shooté à la dépense publique, c'est ce que laisse entendre en creux Christelle Morançais. Est-ce que vous-même partagez ce point de vue ?
Je vous ai répondu, je vous ai dit que pour moi, c'était pas lié à la culture, c'était lié à ce pays.
Mais justement, moi, je vous demande spécifiquement dans le domaine culturel.
Non, dans le domaine culturel, je pense pas que ce soit plus qu'ailleurs. Je suis pas d'accord avec ça.
Alors aujourd'hui, justement, pourquoi laisse-t-on se diffuser cette idée selon laquelle les acteurs culturels, dans leur immense majorité, dépendraient de la dépense publique ?
Non, mais je pense qu'il y a une vision de la culture qui est aussi une vision d'un secteur qui serait un secteur d'artistes pas ancré dans le réel. Je caricature, évidemment, c'est pas ce que je pense. Serait peut-être déconnecté des réalités économiques. On oublie, moi je dis régulièrement quand je suis interrogée là-dessus, que par exemple, un des premier secteur d'emploi de la région Île-de-France, c'est le cinéma. Et que quand on finance un film, on finance aussi de l'activité économique sur la région. On finance des gens qui vont tourner dans la région, qui vont consommer sur la région, qui vont aller dans des hôtels et restaurants de la région, qui vont utiliser des matériaux de la région, qui vont aller dans des studios de tournage de la région, etc. etc. Donc en fait, ce qui est dommage... c'est qu'il n'y ait pas une vision économique de la culture. Et je trouve d'ailleurs qu'on n'en parle pas assez. Vous voyez, dans ma commune, j'ai créé un festival de cinéma qui est axé autour des métiers du cinéma. On a une semaine où les collégiens, les lycéens, même les enfants d'école primaire, viennent rencontrer tous les métiers qui existent autour du cinéma. Parce que souvent, ils croient que c'est réalisateur, au mieux scénariste, et puis acteur, actrice. Ils découvrent l'immense planète... qu'est le monde du cinéma et tous les métiers qu'ils pourraient faire, et ça les stupéfie, franchement. Et même, je peux vous dire, parfois, les professeurs qui les accompagnent. Donc, c'est des métiers, dans les orientations, d'ailleurs, quand on est au lycée, etc., j'ai rarement entendu un conseiller d'orientation dire « va faire du cinéma ». Dire « t'es bon en technologie, tu peux être monteur » ou des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a un problème de regard et il y a un problème un peu condescendant aussi vis-à-vis de la culture. Même aussi par rapport d'ailleurs au métier de la musique. Souvent quand vous êtes bon en musique, vous dites « bon, ben, en même temps, si je peux pas être soliste, qu'est-ce que je vais faire ?» Ben, vous pouvez faire plein d'autres choses. Vous pouvez être dumiste, vous pouvez être directeur de conservatoire, vous pouvez être agent. Enfin bon. Et en fait, je pense qu'on n'a pas assez de formation et même de salons autour des métiers liés à la culture en général, ce qui donne des appréciations comme ça un peu biaisées.
Charline Claveau, vous souhaitiez réagir ?
Oui, d'abord, je suis assez d'accord sur le fait que finalement l'apport économique du monde culturel est très partiel quand on en parle, parce que, comme ma collègue le dit, il y a beaucoup d'économies induites par l'activité culturelle. Le cinéma en est un très bon exemple. On sait qu'on a des retours d'investissement de 7 euros pour 1 euro investi jusqu'à 12 euros quand on est dans le cinéma sur des tournages, par exemple. Mais c'est aussi vrai pour des théâtres qui font travailler des prestataires, etc. Donc, c'est sûr que l'appréciation, on va dire, du poids économique de l'activité culturelle et artistique, aujourd'hui, elle est insuffisante dans les discours. Mais je pense que ça peut pas être la seule entrée. Aujourd'hui, ce qui s'érode quand même par rapport peut-être à l'après-guerre, c'est l'assise de l'utilité sociale de la culture. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous poser la question, évidemment, de savoir si c'est un problème qu'un hôpital soit déficitaire ou l'école ou l'éducation, mais vous vous la posez beaucoup plus quand il s'agit de la culture. Et aujourd'hui, ce débat-là, de quelle est l'utilité sociale de la culture, il tend un petit peu à perdre de son assise. Et je crois que c'est un des sujets. Je pense que aujourd'hui, les professionnels de la culture et les artistes en sont très conscients et de plus en plus travaillent au plus près des habitants et au sein des territoires. Donc, je pense que c'est une double entrée qui, aujourd'hui, fragilise les politiques culturelles.
Il me semble quand même qu'à l'hôpital, les directeurs d'hôpitaux et les personnels en général se posent la question des déficits publics. Il faudrait pas non plus laisser entendre que la question des déficits ne concerne que la culture, Charline Claveau. Et dans ce domaine, qu'est-ce que les régions peuvent inventer aujourd'hui en matière de financement, en matière de recherche de financement, dans le cadre budgétaire contraint que nous connaissons?
Alors, je pense que d'abord, il y a deux stratégies qui sont aujourd'hui mises en œuvre par les acteurs culturels. Il y a d'abord une stratégie d'abaissement des dépenses, puisque une des réalités des professionnels, ça a été évidemment l'inflation sur les coûts, que ce soit les charges d'électricité, d'énergie, l'augmentation des frais d'approche pour les artistes, par exemple. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a de la recherche, par exemple, de mutualisation, de groupement d'achat pour tâcher d'abaisser les dépenses. On voit aussi qu'il y a une mobilisation autour de la recherche de mécénat privé. La difficulté, c'est que nous ne sommes pas un pays qui avons une grande culture du mécénat, comme ça peut être le cas, par exemple, dans les pays anglo-saxons, mais qui, eux, ont aussi un autre modèle de service public, ou encore en Allemagne, où il y a des entreprises qui sont extrêmement mobilisées pour les projets culturels en tant que projet de valorisation du territoire dans lequel ils sont implantés. Donc le mécénat, c'est un peu comment dire, tout le monde pense à cela parce qu'il y a une raréfaction de l'argent public, mais pour autant on voit que parfois c'est un investissement puisqu'il faut recruter une personne évidemment pour aller faire tout ce travail de recherche de mécénat avec un retour sur investissement qui est très différent, y compris selon les esthétiques que l'on porte. Je pense qu'il y a des stratégies qui sont là diverses. Nous on travaille beaucoup à soutenir les dynamiques collectives et les outils de solidarité que les acteurs peuvent développer et l'échelon territorial régional avec une masse critique importante de ce point de vue-là est très pertinent.
Florence Portelli, pour vous, le mécénat, c'est une option possible. Il faut rappeler d'ailleurs l'un des problèmes fondamentaux du mécénat, c'est que quelques projets aspirent la grande majorité des fonds et laissent les autres de côté.
Oui, il y a même le mécénat, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est que, comme ça me vient, pardon, mais le mécénat bien pensant, quoi. C'est en fait le mécénat facile, enfin pas facile, c'est très bien.
Qu'est-ce que le mécénat bien pensant alors?
Non, mais le mécénat bien pensant, c'est moi je l'ai vu pour avoir vraiment pris mon bâton de pèlerin sur différents sujets, c'est dire ah bah oui, mais là on va pas donner d'argent parce que c'est pas dans un quartier prioritaire. Donc comme c'est pas dans un quartier prioritaire, c'est pas dit comme ça, mais clairement on a l'impression que ça fait moins bien socialement. Alors que vous voyez, moi dans ma collectivité par exemple, je m'applique à faire vraiment du soutien à la culture partout. C'est-à-dire tout le monde en a besoin. Et donc vous avez des pans entiers de secteurs qui mériteraient d'être aidés, ou même d'ailleurs dans le domaine musical, des nouveaux types de musique ou des portées, des nouvelles formations, etc., qui ne vont pas l'être, qui ne vont pas trouver de soutien parce qu'on va dire vous cochez pas la case aujourd'hui de ce qui se fait plutôt le soutien qui plaira plus médiatiquement, honnêtement. Et c'est vrai aussi que c'est lié au fait qu'on n'a pas l'habitude d'être facilement mécène. Donc c'est compliqué. Là, par exemple, moi je vois l'Orchestre National d'Île-de-France, on essaie de trouver du mécénat. On va faire un prochain concert là où vont venir des chefs d'entreprise pour leur montrer à quel point l'orchestre est extraordinaire. Et on va aussi associer...
Je rappelle que vous en êtes présidente.
Voilà, mais je vous... Non mais honnêtement, c'est magnifique ce qu'ils font. Choose Paris Region, qui est le bras armé économique de développement économique de la région, va être là aussi pour créer du lien entre l'entreprise et l'orchestre. Bon, c'est un peu nouveau, mais on va essayer de faire ça. Mais c'est vrai que c'est pas dans la culture du pays. Après, je vous dirais aussi le danger du mécénat, de mon point de vue, peut-être pas plaire à tous les pouvoirs publics de m'entendre dire ça, c'est qu'il faut pas non plus que ça remplace tout. C'est-à-dire la facilité et un peu la double peine, ce serait de dire bah, « j'ai été trouver des mécènes, donc je me fais punir quelque part, on va me retirer de l'argent public ». Alors que ça aide un peu à limiter l'argent public, oui. Si ça remplace totalement, je pense que c'est même dangereux, parce que le jour où le mécénat s'arrête, c'est terminé. Après, je vous dirais, il y a aussi la souscription publique. Moi, je pense que c'est bien de faire adhérer des citoyens à un projet. Par exemple, ce qui s'est fait pour Notre-Dame, avec des gens qui même parfois ont donné 3 euros hein, pour le patrimoine, bah, c'est génial, parce qu'en plus, ils intègrent un projet. Et ça, je pense qu'il faut qu'on ait peut-être plus aussi le sentiment d'appartenance à une communauté nationale culturelle en favorisant la souscription publique. Mais c'est pas ça qui rapportera tant que ça. Honnêtement, je reprends l'exemple d'un orchestre. Bah oui, un orchestre, c'est des gens. Et forcément, ça coûte cher. Ou alors, faut supprimer des emplois. Mais dans ce cas-là, bah, écoutez, essayer de faire une symphonie de Shostakovich avec 30 musiciens, ça va être vachement compliqué.
Sur la souscription publique, Charline Claveau, quel est votre point de vue? On peut se dire tout naturellement aussi que ça fait tout de même un peu doublon avec quelque chose qui s'appelle l'impôt.
Oui, peut-être d'abord sur le mécénat, je partage certains des propos de ma collègue, notamment sur le risque. Ce qui est sûr, c'est que le mécénat est évidemment le bienvenu, il est important, mais il faut que ça reste une part qui n'est pas la part majoritaire dans les financements de la culture pour deux raisons. D'abord, c'est un intérêt privé. Alors évidemment, les intérêts privés peuvent rejoindre l'intérêt général, et c'est ce qui se passe quand un mécène décide de soutenir un orchestre ou un festival, mais l'intérêt général, c'est autre chose, et par ailleurs, ça permet d'assurer aussi une permanence du soutien. Et comme l'a dit ma collègue, le mécénat, c'est aussi un peu en fonction du compte de résultat, c'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir des retraits, et on l'a vu d'ailleurs en post-Covid, avec des festivals qui ont vu des mécènes reculer parce qu'eux-mêmes étaient dans des situations financières délicates. Sur la souscription citoyenne, c'est effectivement une manière, et sur le patrimoine, cela peut avoir du sens. Maintenant, je crois que l'engagement citoyen, il peut se faire aussi par la participation au sein de la gouvernance, par exemple, de théâtre ou de salle de concert. Il peut se faire par le fait de prendre un abonnement, des adhésions, etc. Donc, je pense que l'engagement citoyen, il peut se faire de différentes manières, et c'est toujours une manière évidemment de soutenir la culture.
Est-ce que vos goûts personnels, Florence Portelli, vos goûts personnels en matière culturelle, vous guident dans vos choix de politique publique, là aussi dans le domaine de la culture? Est-ce que c'est quelque chose qui peut participer à vous orienter?
Alors oui, mais déjà, avant toute chose, je fais de la politique aussi parce que j'ai des choses qui m'ont émue. Par exemple, La vie est belle de Capra a fait partie de mes choix d'engagement et mon envie d'être utile. La chanson « Utile » d'ailleurs, une chanson qui m'a beaucoup marquée. Vous allez me dire, je ne vois pas du tout comment ça peut faire un lien avec votre vie, mais ce n'est pas grave. Mais par exemple, « La nuit de San Lorenzo » des frères Taviani, c'est un film qui m'a beaucoup marquée. Donc un film, une musique, un livre, c'est même parfois aussi quand il m'agace, quand j'ai envie vraiment de... Je m'agace assez facilement, j'avoue. Ça me permet aussi de mieux m'interroger, de mieux me questionner. Et c'est fondamental pour moi. Donc en fait, j'irais tout simplement, ça guide ma vie et je n'arrive pas à être schizophrène entre mon élan sensible et ce que je pratique dans mes choix politiques.
Charline Claveau, si je vous posais la même question, si vos goûts culturels, personnels vous orientaient en matière de choix de politique publique, est-ce que c'est le cas ?
Non, pas du tout. Et c'est même plutôt pour moi une éthique de rassurer, on va dire, les bénéficiaires de nos politiques qu'en aucun cas il s'agit de mon goût personnel ou de ma préférence, de mon appétence particulière pour telle ou telle esthétique ou telle ou telle artiste. Je pense que dans le rôle que nous occupons, nous devons pas faire jouer nos goûts ou notre morale, et on voit que dans certains cas ça peut avoir des conséquences sur le respect de la liberté de création de programmation. Par contre, ce que je reconnais, c'est que j'ai eu la chance de grandir dans un environnement où on m'a amené au théâtre, où on m'a amené au cinéma, où on m'a amené dans une salle de concert, et que cet héritage culturel, il a compté évidemment pour mon parcours de vie. Et c'est là où on revient sur l'importance des politiques culturelles. Et moi, je vois que ça peut, et je le vois tous les des jours que ça peut changer des vies et que ça peut changer aussi des destins et des choix que vont faire des personnes, alors souvent jeunes, dans l'appréciation de leurs possibilités de vie. Donc je pense que c'est surtout ça, en fait, qui aujourd'hui va guider mon engagement pour les politiques culturelles.
Florence Portelli, vous souhaitez réagir?
Ouais, un petit bémol, parce que ça dépend aussi du profil de l'élu, tout simplement. D'ailleurs, quand les gens vous élisent, ils ne vous élisent pas sur un CV, hein. Ils vous élisent sur une personnalité, sur un programme, et ça compte aussi.
Et sur vos choix culturels, vous pensez?
Bah, moi, en tous les cas, très clairement, il n'y avait pas de... Honnêtement, avant que je sois maire, je ne pense pas que c'était vraiment la priorité de la ville. Moi, ça a été ma priorité. Et le fait que, aussi, je m'intéresse à certaines choses, on a pu faire ce festival du cinéma, sinon il n'aurait pas été proposé par mes services. On a pu faire un bout du festival du film russe indépendant avec Masha Merine, parce que je la connaissais, parce que je l'avais aussi rencontrée dans le cadre de mes compétences régionales. On a pu faire venir Samuel Blumenfeld, qui est l'historien du monde sur le cinéma, pour qu'il fasse des résidences pour expliquer, pourquoi Le Dernier Métro, c'est un film génial. C'est pas à la place d'eux, c'est pas pour censurer mes milieux culturels.
Florence Portelli, ce sont des relations sociales, ce n'est pas nécessairement des goûts. J'imagine aussi que Charline Claveau déploie son réseau pour faire vivre sa région.
Oui, mais c'est pour ça, moi, j'aime pas qu'on dise le politique, il doit juste signer en bas de la page. Moi, je crois qu'au contraire, le fait qu'il soit profondément passionné par la culture peut aussi apporter des plus, peut aussi apporter des orientations, et qu'un politique n'est pas là uniquement pour exécuter. Enfin, moi, je conçois absolument pas mon mandat comme ça, sinon je démissionnerai tout de suite.
Charline Claveau.
Oui, la manière dont j'entends mon rôle, c'est de soutenir, d'accompagner un monde culturel qui d'ailleurs s'est beaucoup professionnalisé ces 50 dernières années, de faire confiance à des programmateurs, de faire confiance à des artistes, de faire confiance à des porteurs de projets, et non pas de choisir, moi, ce qui mériterait d'être vu, d'être programmé, d'être lu ou d'être entendu. Donc le rôle pour, et c'est comme ça que la région Nouvelle-Aquitaine, depuis des années, construit sa politique culturelle, c'est de la construire avec les professionnels de la culture, évidemment, nous, en faisant le lien avec l'intérêt général, mais notre rôle est de soutenir, d'accompagner et de discuter ensemble des grandes orientations, plutôt que d'imposer ou de suggérer même des choix qui seraient des choix personnels.
Mais comment faire, Charline Claveau, dans le même temps, pour développer, dessiner, proposer aux personnes qui vous élisent une vision profonde et sincère de la culture? Il faut bien se fonder sur des goûts et des choix personnels, je me trompe?
Non, je ne crois pas. Je pense qu'on peut avoir une entrée qui est une entrée aussi d'aménagement du territoire, de soutien à ce qu'il y ait un accès pour tous de la culture le plus aisément possible. C'est en fait, pour moi, c'est une question aussi un peu de démocratie. En fait, c'est pas seulement le contenu dont on parle, c'est aussi des équipements, le fait d'avoir des possibilités d'être en contact avec des œuvres, de rencontrer des artistes, de réfléchir, de débattre sur des sujets. Les professionnels le font extrêmement bien. On est vraiment, nous, dans notre rôle d'aménageur culturel du territoire.
Florence
et on le fait aussi avec les autres niveaux de collectivité. On est très en contact avec les maires des communes, etc. Donc
non, mais les goûts personnels, évidemment, c'est à la marge. Ce que je veux dire, c'est qu'en tous les cas, pour moi, le politique, il doit être moteur et ambassadeur. Et heureusement qu'on l'est, parce que justement, quand on ne l'est pas, on voit très bien aujourd'hui dans ce pays ce que ça donne. Il n'y a pas de politique culturelle.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à Question du Soir pour ce débat. Je rappelle, Florence Portelli, vous êtes première vice-présidente chargée de la culture, du patrimoine et de la création à la région Île-de-France. Vous êtes vice-présidente des Républicains et présidente du très bel Orchestre National d'Île-de-France. Charline Claveau, vous êtes vice-présidente en charge de la culture, des langues et culture régionale, du patrimoine et de la francophonie à la région Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes secrétaire nationale en charge de la culture au Parti Socialiste. Merci à toutes les deux.